chronique finance avec Prime Yamoya. Vous êtes sur les ondes de Choc FM 105.1. On passe maintenant à la page économie avec notre spécialiste Prime Yamoya au bout du fil que je rejoins. Bonjour Prime.
Bonjour Guillaume.
Prime, on parle beaucoup, juste après ce grand sommet du G7, de cet impôt minimal mondial qui devrait voir le jour. Une petite révolution pour la planète. On s'accorde sur un taux d'imposition mondial sur les sociétés d'au moins 15%, ce qui devrait donc lutter en partie contre l'évasion fiscale et faire rentrer pas mal d'argent dans les caisses de chaque État. L'accord est qualifié d'historique par de nombreux pays. Est-ce que tu veux nous en résumer un petit peu le contenu?
Oui, absolument. Le monde a fait en disant que le monde fait un pas historique vers une réforme de la fiscalité mondiale avec l'instauration d'un taux minimum d'imposition d'au moins 15% adapté à la mondialisation et numérique.
En effet. Alors, il faut peut-être rappeler que, bon, l'Internet s'est créé en 1995. À la fin des années 90, il y a déjà de très nombreuses grandes sociétés web qui ont vu le jour. Et il y a une sorte de flou et beaucoup de retard dans la fiscalité pour essayer de taxer ces entreprises-là, à tel point que beaucoup d'entre elles, aujourd'hui encore, en 2021, continuent d'échapper à toute forme de taxation sur leur sol d'origine. Elles sont allées s'implanter dans différents pays qui ont des fiscalités plus avantageuses. Cette réforme essaye de lutter contre cette tendance avec une fiscalité harmonisée. C'est quelque chose qui semblait jusqu'à présent impossible. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer que ce taux minimum d'imposition voit le jour prochainement?
Moi, je serais beaucoup plus sceptique parce que ça va aller doucement. Mais ce qui est important à ce niveau, c'est la volonté politique des grandes puissances, à commencer par les États-Unis et les grands pays de l'Union européenne, l'Allemagne, la France, etc., qui ont mis leur poids en balance pour permettre cette révision de la fiscalité des multinationales, du numérique, sous la proposition d'ailleurs de l'OCDE, afin d'éviter le contournement, l'évitement de l'impôt.
C'est ça. Alors, il faut préciser que cet impôt de 15% serait à payer par les entreprises sur leurs bénéfices, n'est-ce pas?
Oui, sur leurs bénéfices, quel que soit le lieu d'ailleurs. Mais je dois dire qu'il y a ici, il y a encore beaucoup de travail à faire. L'imposition d'un impôt minimal global à 15% serait donc payée sur leurs bénéfices, quel que soit le lieu d'implantation. Les principaux principes sont les suivants. C'est la révision des lois fiscales internationales qui sont suffisamment compliquées. N'entrons pas dans les détails, parce que la fiscalité, déjà, est une science assez complexe.
En effet, ça veut dire que, pour simplifier, les lois sont évidemment différentes suivant les États, et certains États ont des fiscalités très avantageuses pour les entreprises. C'est pour ça qu'il y a des paradis fiscaux où des entreprises s'installent uniquement pour avoir une adresse et ne pas payer d'impôts, finalement échapper à l'impôt sur leur territoire d'origine.
Alors, pour donner un exemple simple, le Luxembourg, le petit Luxembourg, attire plus de 3 000 milliards de dollars d'investissements directs étrangers, autant que les États-Unis.
Ouf, en effet. Alors que ce tout petit pays d'Europe ne fabrique pas grand-chose, finalement.
Non. Si vous avez été au Luxembourg, vous constaterez que c'est un petit territoire, mais qui est extrêmement riche. Riche parce que, justement, à cause des mouvements de capitaux qui s'en vont là-bas.
Alors, on imagine tout de suite. C'est ça. On imagine tout de suite que ces États qui ont des fiscalités très intéressantes doivent être assez récalcitrants à cet impôt minimal global.
Absolument. À commencer justement par le Luxembourg, l'Irlande.
Ouais.
Donc, l'Irlande, avec un taux d'imposition de 12,5%, s'est prononcée contre l'impôt minimum.
D'accord.
Parce que ça découragerait bien sûr les investissements vers ce pays.
Oui.
La Chine est aussi réticente, parce qu'il y a Hong Kong, qui est quand même un statut de zone franche pratiquement.
Ouais.
Tout comme la Hongrie et la Tchécoslovaquie. Mais ce sont les petits États de l'Europe centrale qui jouent sur le différentiel de la fiscalité pour attirer les investissements chez eux.
Bien sûr.
Mais pour Biden, cette norme mondiale découragerait les entreprises américaines à délocaliser vers les pays à faible taux d'imposition.
Oui, on a l'impression que c'est sous l'impulsion de Joe Biden, le nouveau président américain, que cette nouvelle fiscalité mondiale peut voir le jour. Est-ce qu'il a été un moteur particulièrement insistant pour cet impôt?
Oui, absolument, parce que d'ailleurs, il compte sur la fiscalité des entreprises et surtout des grandes multinationales pour financer son fameux plan d'infrastructure. Parce qu'il a un plan ambitieux, donc il devra le financer avec les impôts provenant des diverses sources. Alors il y a aussi le fait qu'il y a une différentielle, même d'après la Commission européenne, les entreprises numériques payent un taux d'imposition moyen de 9,5% contre 23% pour les entreprises traditionnelles. Il y a aussi une question d'équité.
Et oui, bien sûr. Oui, on voit que les entreprises numériques donc ont bénéficié ces dernières années d'une fiscalité beaucoup plus avantageuse que les autres entreprises, sans qu'il n'y ait véritablement de justification. J'avais une autre question pour toi, Prime. Qu'en est-il du Canada, puisque Justin Trudeau était présent à ce sommet du G7? J'imagine qu'il a voté en faveur de cet accord.
Oui, absolument tous les pays, d'ailleurs du G7, ont voté pour cet accord qui devrait normalement aussi bénéficier au Canada dans la mesure où il y a une implantation d'entreprise du GAFA.
En effet.
Qui échappe aux impôts. Donc, le taux d'imposition minimum de 15% sur les bénéfices des multinationales devrait plutôt bénéficier au Canada, comme aux autres pays.
C'est une bonne nouvelle. Malgré tout, aujourd'hui, s'élèvent déjà des voix pour critiquer cet accord qui a à peine été signé. On pense qu'on n'est pas allé assez loin pour certains économistes. 15%, c'est trop peu?
Mais c'est déjà ça. C'est un début à tout.
Oui, en effet, parce qu'il n'y avait pas eu de véritable discussion sur ce sujet depuis très longtemps.
Mais parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'en politique, et là, on revient à Keynes, et qui dit que, en fait, la science politique n'est pas quelque chose de mathématique. Il y a aussi le politique, le psychologique. Il faut savoir que tout ça joue. Vous commencez quelque chose d'abord petit, puis vous avancez, vous progressez.
En effet.
Puis à long terme, vous aboutirez certainement à l'objectif que vous aviez au départ. Mais on ne peut pas précipiter les choses.
En tout cas, c'est un système qui devrait permettre de lutter contre l'évasion fiscale, à condition que, aux États-Unis, l'idée fasse son chemin jusque dans les rangs des conservateurs républicains au Congrès. Et ça, ce n'est pas encore une chose aisée.
D'ailleurs, c'est ce qu'a noté le New York Times du 8 juin, en soulignant que Yellen a remporté un accord mondial. Vient maintenant la partie difficile. Prendre l'idée aux républicains du Congrès ne sera pas une victoire facile, ni d'ailleurs aux puissants lobbies qui vont se mettre en place.
C'est ça, le New York Times parle de Janet Yellen, la secrétaire du Trésor aux États-Unis.
Absolument. Ce sera un parcours de combattants. Et je pense que, bon, cette mesure pourra être mise en place d'ici quelques années s'il y a continuité de la politique américaine. Comme tu sais, ça peut changer dans 4 ans.
Bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce que tu peux nous donner, pour terminer, Prime, pour qu'on se rende bien compte de l'ampleur du problème et d'un problème qu'on pourrait qualifier effectivement de mondial, tu pourrais nous donner l'exemple d'une grande entreprise qu'on connaît et qui bénéficie pour l'instant d'une sorte de forme d'évasion fiscale malgré tout, même si celle-ci est considérée comme légale?
Ben oui, il y a par exemple tous les sociétés du GAFA. Prenons exemple Apple. Apple Sales International a été créé par la société mère pour réaffecter des bénéfices de ses actifs incorporels, c'est-à-dire les brevets, les licences, etc., à la filiale irlandaise.
La filiale irlandaise dont tu parlais tout à l'heure, qui bénéficie donc en Irlande d'un taux d'imposition inférieur en moyenne au reste du monde.
C'est-à-dire, c'est un jeu d'écriture, finalement. J'ai souligné tout à l'heure le Luxembourg qui attire des investissements considérables.
Ouais.
Mais il faut aussi souligner que même aux États-Unis, il y a aussi des niches fiscales. Mais il subsiste cependant des questions sur la façon dont toutes ces propositions seront traduites en politique concrète. Concrètement, comment est-ce que cela va être traduit sur le plan de la fiscalité suivant les États? Parce qu'il y a les États ont différents systèmes d'imposition fiscale, comme on l'a dit tout à l'heure.
Voilà l'impôt minimal mondial résumé par Prim Nyamoya sur les ondes de Choc FM. On espère voir la fin des paradis fiscaux un jour. En tout cas, c'est ce qu'espèrent les pays du G7. Et avec cet impôt mondial sur les sociétés d'au moins 15%, peut-être le début d'un nouvel ordre mondial. Merci Prim pour tes lumières.
C'est moi qui te remercie et je pense effectivement que nous nous acheminons vers une révolution fiscale au niveau mondial.